Chacune, on va gentiment commencer. J'ai une petite question d'ordre pratique et j'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. Il y a ce soir, si je ne m'abuse, il y a encore, en tout cas, deux places pour la prière, donc lors de la prochaine pause. Je sais que Valérie Baudin-Morisset, Valérie Castilla et Christian Cartier, vous avez agendé la semaine prochaine, enfin le mois prochain, dernier cours. Est-ce que vous voulez le maintenir? Parce qu'il y a en tout cas deux possibilités, si je ne m'abuse même trois, donc vous pourriez passer ce soir. C'est libre à vous, mais il faut juste que je le sache pour que je puisse avertir. Cette possibilité existe, vous pouvez en profiter maintenant ou bien le mois prochain. Volontiers? D'accord, alors Valérie. Donc ce sera aussi les deux pour, la prochaine session? Alors, je vais juste le noter, je reviens, vous avez encore le temps de bavarder comme ça un petit peu. Voilà. Ben c'est l'avant-dernier cours. La fois prochaine, donc ce sera le dernier. On aura un apéritif un peu plus conséquent. On va essayer de faire un petit moment festif après. Donc n'essayez pas de partir trop vite. La prochaine fois, agendez-le, restons ensemble et puis profitons. Voilà. Qui parmi vous a déjà vécu un des temps de prière pendant cette période? Est-ce qu'il y en a l'un ou l'autre qui veut dire quelque chose, libre total? Si quelqu'un veut dire « Ah ouais, c'était génial » ou bien... Vas-y.
Dire, mais je veux bien...
Oui, mais volontiers, oui.
Je dois venir devant.
C'est comme tu veux. Quoique l'avantage du micro, c'est que tu n'es pas obligé de donner de détails, hein, totalement libre à toi. Hein. Mais c'est vrai que des fois, sur l'enregistrement, les autres l'entendront. Non, libre à toi. Comme tu veux.
Bonsoir, alors je m'appelle Séverine. J'ai eu la prière d'écoute la dernière fois, et puis je suis arrivée vraiment sans attente, et puis en même temps, quand même avec quelques attentes. Non, mais je n'avais pas réalisé, mais je suis arrivée assez libre comme ça, puis au fur et à mesure de ce moment, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais besoin que Dieu me montre deux, trois choses, ou me confirme deux, trois choses. Et puis en fait, j'ai été vraiment touchée par ce moment extrêmement bienveillant, et puis où vraiment j'ai senti la douceur de Dieu, c'était qu'il y avait trois femmes qui étaient là, et deux d'entre elles ont eu les mêmes images pendant un moment d'écoute, exactement la même image. Et voilà, elles ne s'étaient pas consultées, elles étaient à l'écoute, et puis je crois vraiment que le Seigneur a utilisé cette image, c'était l'image d'une femme qui dansait dans un chant un peu librement comme ça, joyeuse. Et puis, l'une d'entre elles a aussi vu que cette personne, elle entraînait d'autres personnes avec elle. Donc, la femme en question, c'était moi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée parce que c'est vraiment, dans ma vie actuellement, je chemine par rapport à ma place en tant que femme. Et puis, ça a été juste ce qu'il fallait pour que le Seigneur me dise, tu vois, je t'utilise en tant que femme. Et puis, ça a été confirmé par deux personnes que je ne connaissais pas. Donc, voilà, c'était très touchant.
Voilà, hein. Prochaine étape.
Ouais, c'est ça.
D'accord, encore quelqu'un qui veut aussi partager rapidement quelque chose? Vas-y, oui.
j'étais... Bonsoir, Liliane, je m'appelle. J'étais vraiment touchée par la... Ouais, comment Dieu, il a coordonné ce moment-là, parce que ce jour-là, je me baladais vraiment toute la journée. J'avais un petit nuage qui pleuvait sur moi toute la journée. Vous voyez un peu l'image. Partout où j'allais, j'avais un petit nuage. J'étais un peu sous. Et j'ai pas du tout fait le lien avec le fait que ce soir, j'avais l'écoute. Et c'était aussi un moment vraiment bienveillant. Où Dieu m'a vraiment touchée par ces deux Corinne qui ont prié pour moi, et c'était vraiment touchant. Voilà, j'ai pas besoin de dire beaucoup plus. Voilà. Mais la comment Dieu il gère un peu notre agenda. Ah oui, peut-être je pourrais dire. À un moment donné, elles m'ont vraiment dit, prends position et refuse cette nuage, voilà. Et c'est pas elles qui vont m'aider à le chasser, mais c'est dit, mais toi, Liliane, lève-toi, positionne-toi et au nom de Jésus, tu chasses. Et j'avais trouvé vraiment très utile. Et depuis, je le fais et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Et je vais garder cette art de, ou bien cette arme, hein, quelque part, de résister.
Jamais 203, une troisième personne ? Libre, hein, vous n'êtes pas obligé. Ok, ça joue. Alors ça va être parti. Ce soir, on a une thématique. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé de démanteler, on a parlé des forteresses, ce que c'était que les forteresses. Et puis aujourd'hui, on va voir comment les démanteler, ces forteresses. Et puis, on n'est pas tous des obélix où on fonce dans le tas et ça casse tout. Mais il y a des stratégies, il faut regarder ces choses et c'est ce qu'on va toucher. La deuxième partie, on va parler du rejet. On va voir la forteresse du rejet ce soir. Ok, juste prier. Seigneur, c'est réjouissant d'entendre des témoignages comme quoi tu nous connais. C'est réjouissant d'entendre que tu connais nos parcours de vie, nos journées, nos minutes, nos émotions et sentiments. Et que tu nous fais grandir en toi. Alors j'implore ta grâce pour chaque personne ici présente, parce que je me réjouis de ce que tu veux semer dans ses cœurs. Je demande un petit plus de grâce, que ça puisse vraiment être le début de quelque chose, de nouveau, une étape de plus ou un approfondissement, afin que ton nom soit glorifié par toutes ces vies touchées, guéries, restaurées, transformées. Bienvenue Seigneur parmi nous. Amen. Voilà, démanteler les forteresses. On va faire un petit rappel pour commencer. Vous rappelez la notion qu'on a vue la dernière fois, l'arbre. Il y a les fruits, le tronc et tout ça. Hein. Et on va voir la première partie, un petit rappel rapide. Les fruits, c'est la manifestation visible des forteresses. Et puis, vous avez vu, la dernière fois, on a des fois tendance dans nos vies à voir que ça, le fruit, et puis on l'enlève. Et puis, y en a encore un autre. Alors, on l'enlève, et puis ça ne s'arrête plus. Il y a 2 millions de fruits sur nos arbres. Et puis, quand on les a tous enlevés, on est calme un moment, et puis la saison d'après, ils reviennent. Donc, il y a les fruits, les manifestations visibles, et ça nous montre que ce n'est pas le fruit même qui doit être chassé, mais qu'il y a autre chose. Il y a le tronc, et en général, le tronc, c'est la forteresse principale. Et après, on doit découvrir, et c'est pour ça qu'il y a ces temps de prière aussi, de voir comment, qu'est-ce que Dieu veut vraiment toucher. Et puis, évidemment, la source de toute chose qui permet aux forteresses de se développer, c'est les racines. C'est souvent ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on a vécu, les expériences. Vous voyez là, ou bien il faut que je me décale? Ça va comme ça? D'accord. Et dans les racines, voilà certaines choses qui font partie de... On trouve généralement ces choses-là, c'est des expériences d'injustice que nous avons vécues, des déficits d'amour, des traumatismes, des péchés générationnels, c'est le thème qu'on touchera la prochaine fois, les liens d'âme qui sera aussi la prochaine fois, des malédictions. Il peut y avoir plein de sources, et ces racines, c'est ça que Dieu veut venir trancher. S'approprier le don de repentance, il y a la repentance. Et la repentance... Quand on entend ce mot, on s'imagine des fois, tout dépend le bagage qu'on a, c'est ça y est, on va sortir le fouet, puis on va se lacérer le dos. Mais la repentance, c'est pas ça. C'est pas un don qui nous tombe dessus, pouf, pouf, tu te repens. mais c'est un style de vie, puis en même temps, c'est un cadeau que Dieu nous appelle à vivre. C'est pas non plus une introspection maladive. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui de pas bien ? On ne doit pas entrer dans une culpabilité, c'est pas ça que la repentance. C'est plutôt une porte à laquelle Dieu frappe fortement et régulièrement, mais lui sait à laquelle frapper. Et des fois, nous, on veut se repentir de toute la planète entière. Et dire, voilà, oh j'ai pas bien réussi, moi, mais là, j'ai... Puis Dieu, il est au-delà de ça. Et lui, il aimerait nous conduire dans un chemin plein de vie pour nous ouvrir quoi ? L'accès au salut. Et si quelque chose nous parle, on peut se remettre dans la repentance. C'est le point que Dieu a voulu. Et c'est ce point-là, pour ce moment-là, pour toi précisément, qui t'amène vers plus de vie. Si vous regardez en bas de la page 44, en bas à gauche, le premier verset, il y a Acte 5, verset 31. Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite, comme chef suprême et sauveur, pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. La grâce de changer. Autrement dit, c'est possible de changer. Et trop souvent, on s'imagine, ouais, on n'y arrive pas, et puis de toute façon, on va tomber, et puis c'est comme ça que le monde fonctionne. Non, Dieu donne la puissance du changement. Et je crois qu'il faut qu'on capte ce cadeau, c'est qu'avec Dieu, c'est clairement possible. Et en même temps, il y a le pardon qui va avec. Recevoir le pardon. Tu réalises qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu, ça vibre, il a la main tendue en te disant « mais je te pardonne, t'attends quoi ?» Prenons encore le dernier de ces versets, Romains 2, 4, de la page que j'ai indiquée. « Ou alors, méprises-tu les trésors de bonté, de patience, de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer ?» Quand on ne veut pas régler les choses, quand on est borné dans notre attitude, la question est « méprises-tu les trésors de sa bonté ?» Et puis il souligne la bonté de Dieu. Tu veux une fois une phrase pour te dire c'est quoi la bonté de Dieu ? La bonté de Dieu, c'est qu'il veut, c'est de t'amener au changement. Donc le changement fait partie du cœur de Dieu. Sa bonté, c'est de te conduire là-dedans. Alors ce verset, il est un petit peu fort parce qu'il provoque. Et puis c'est comme si Dieu te disait, eh oh, le changement, il est possible et c'est moi qui te le donne. Coucou, j'ai envie de t'amener au changement. Tu le veux ou tu veux rester dans ton malaise ? On y est bien des fois dans notre malaise. Enfin, comme moi, je sais de quoi je parle. Des fois, on aime bien notre petite routine de raillerie, de j'y arrive pas. Et c'est pas facile. Mais Dieu, dans sa bonté, il amène ce changement. Je crois que j'ai été trop loin. La repentance, un changement de la pensée, parce que souvent tout commence par là. Une vraie repentance, ça a des implications radicales, donc c'est un changement total. Ça veut dire qu'il y a un changement qui doit en découler, d'une manière ou d'une autre. C'est un changement de direction, la repentance. Je vais tout droit, c'est faux, au lieu d'aller dans le mur, je retourne en arrière. C'est un vrai, véritable changement. Ça transforme les vies et les valeurs. Ça transforme les attitudes et les actions. Ça transforme notre volonté. Ça touche même nos pensées jusque dans nos émotions. C'est vrai que quelqu'un qui ne va pas bien, il y a le réflexe, quand on ne va pas bien, on râle. Quand on va bien, ben on ne râle plus. Donc ça va jusque dans les émotions. Comme ça, vous pouvez comprendre un peu cette idée-là. Ce n'est pas juste un regret. Hein, ouais, c'est vrai que ce n'est pas bien. Il faudrait que je change. Ce n'est pas ça la repentance. C'est une prise de conscience. C'est un processus continuel. Des fois, il y a le claquement de doigts et ça change, mais des fois, il y a tout un cheminement. Je sais que Dieu, avec moi, il n'est plutôt pas du genre claquer dans les doigts. Il aime bien me faire vivre le changement profondément jusqu'à ce qu'il soit bien acquis. Et ça transforme la vie. Matthieu 12, que vous trouvez à la page 44 à droite, explique le fait de ne pas remplacer le péché découvert par une source de vie, un changement, un comportement juste. C'est pas un... Tu ne dois pas remplacer quelque chose. C'est un changement. C'est pas « j'aimais le rouge, maintenant je mets un autocollant vert dessus ». C'est « je dois l'enlever, ce rouge, pour que le vert vienne ». Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que j'ai essayé d'exprimer. C'est facile de se rendre compte d'un péché, dans certains cas en tout cas. Demander pardon est juste, mais ne suffit pas. C'est vrai, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a des enfants, mais quand tout d'un coup ils se fâchent l'un à l'autre, on a le bon réflexe de parent, en tout cas, va et demande-lui pardon. Hein ? Pardon. Ce n'est pas la demande de pardon qui fait le changement, c'est l'état du cœur. Et quand des fois ils réalisent qu'il y a eu faute, on les voit entre eux tout d'un coup régler la situation. La repentance, ça va plus loin. J'ai un ami, il était multitoxicomane. Il avait la drogue, tout ce qu'on veut comme drogue qui s'injectait autre. Il était alcoolique, mais c'était l'horreur. Et puis il a rencontré Dieu, quelle grâce, la même semaine que les médecins lui ont dit « il te reste 3-4 jours à vivre ». Il a rencontré Jésus, pas par peur, mais il a été touché quand il y a une sortie dans la ville, un temps de louange au parc où il était, et lui, il a été saisi. Il avait l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C. Son foie était complètement détruit, il était jaune comme les rideaux, un peu cette couleur, voire... Ah. Il était même plutôt comme ça, voilà. Ce jaune-là, quand on le regardait, ça faisait mal. C'était atroce, il avait un visage détruit. C'était terrible, les yeux complètement rouges. Et puis il a été transformé, il y a eu des miracles à l'appel, ses hépatites ont disparu, son foie, il a pu vivre ce qu'on appelle une transplantation de foie, il y a eu un cas, j'entre pas en matière bien ou pas, il a vécu des changements radicaux. Quand tout d'un coup il commençait à prêcher aux gens dans des prisons, dans d'autres endroits, il y avait des résultats, des vies transformées, il recevait des paroles de Dieu dans la rue pour toucher les cœurs. Je sais que certains peut-être connaissent Valerio, il s'appelait Valerio, et il tournait beaucoup avec... Philippe de Courroux, et s'il faisait de l'évangélisation, c'était extraordinaire. Le problème de Valerio, c'était son amour pour ses amis toxicomanes. Et tout le monde lui a dit, t'es en train de grandir, mon gars, va-t'en de la rue, va te former, sors, fortifie ta foi, arrête de traîner là au milieu. Et ça, il ne le voulait pas, il l'a refusé très clairement. Et un jour, il a eu des problèmes de cœur sentimentaux très violents. Et en une, deux, ben il est retombé dans ce qu'il avait à portée de main. Il a repris de la drogue et il est décédé. Une seule injection, une overdose. Alors qu'il n'en avait plus touché depuis des années. Il y a un changement radical qui doit se faire jusque dans nos décisions, nos styles de vie, dans la repentance. Bon, je fais une petite parenthèse. Je crois tout de même que Valerio, il est clairement auprès de mon Dieu. J'en ai reçu une conviction très profonde, mais et je pense qu'il est mieux qu'à ce moment-là, il ait été repris, plutôt que de retomber dans toute la décadence de cette violence. Je ferme la parenthèse, c'était mon avis perso. Vivre la repentance, c'est un don que Dieu donne. C'est pas cadeau, tu peux te repentir, mais quelque part, c'est Dieu qui te dit « vas-y, 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 vas-y ». C'est comme quand tu vois le footballeur qui arrive jusqu'au but, puis tu dis « vas-y, 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 vas-y ». Voilà, ben Dieu, il est comme ça. Malheureusement, trop souvent, on n'aime pas se remettre en question ou vouloir changer. Ce que j'ai vécu est dégueulasse et je reste ferme. Changer, non. Et puis, de toute façon, je n'ai pas envie de bosser plus parce que je n'y arriverai pas. Et puis, ma foi, ben, tant pis si j'ai un 4 à la prochaine épreuve. J'ai pas envie de bosser. Le changement, là. Peut-être on a des attitudes dans nos vies qui collent à ça. On est bien dans notre situation. J'ai envie de sortir plus souvent, alors je vais pas faire mes devoirs. Moi, j'étais un champion pour ça. Et il peut y en avoir plein d'exemples dans nos vies, et puis peut-être que maintenant, vous avez quelque chose qui vous revient là où on est bien. J'ai pas envie de changer, ça se passe, là. Si on me dérange pas, la vie continue et tout va bien. Et ce mot, trop souvent, la notion de repentance, on n'aime pas se remettre en question. Elle nous dérange. Quand on en parle, ça... Ah. on réalise qu'il y a quelque chose qui se passe. Seulement, il faut juste qu'on n'oublie pas que de la repentance découle le miracle, le changement. Nous, on ne voit pas ça, parce qu'on voit le changement radical, on voit la prise de position. Pour ma pomme, personnellement, je sais que souvent je dois le vivre, mais quelque part, je suis bien dans ma souffrance. Je recherche ma propre justice, comme je l'ai dit, on l'a tous un peu, d'une manière ou d'une autre. On sait qu'il faut le changement. Maintenant, j'en ai vécu tellement dans ma vie que je sais que le changement va en découler. Mais je crois que je suis quelqu'un de têtu. Puis je sais que Dieu, il aime bien m'amener jusqu'au bout, jusqu'au moment où j'ai lâché prise. Et souvent, j'attends le moment où j'ai complètement lâché prise pour me relever au lieu de remettre les pieds dessus puis dire « Oui, c'est vrai, je veux que ça change. » Notre charnel, en fait, n'aime pas ça. Parce que ça va à l'opposé de ce que Dieu veut. On a envie de rester dans notre nature pécheresse, héritière de la chute. Alors du changement pour quelque chose de bon, oh, ce que ça crie. D'accord ? Le combat jusqu'à ce qu'on lâche peut être long, mais c'est pas ça le problème, c'est de décider d'entrer dedans. Osons le voir comme un cadeau merveilleux. Quand tu entends, quand tu réalises le changement, ose le voir comme un cadeau merveilleux. Je me prêche à moi-même, vous l'avez compris, vu le témoignage. Ose le voir comme un cadeau merveilleux. La joie que ça procure, la nouvelle vie qui en découle. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore, Jacques 4, les versets 6 à 10. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Reconnaître que ça ne va pas, ça fait partie de l'humilité. Soumettez-vous donc à Dieu. Oh là là, je suis bien dans ma soumission actuelle. Je dois changer d'autorité, là. Je dois me soumettre à lui. Résistez au diable. Parce qu'il va falloir se battre en plus. Et il fuira loin de vous. Tu as donné l'exemple de la prière, là, pour dire quand ces mauvaises pensées, elles viennent. Ouais, prendre position. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ah, c'est moi qui dois faire. Tu as oublié que Dieu, il est déjà à côté de toi, en fait. Il a déjà tendu la main, mais il ne veut pas venir te la prendre, la main, puis te forcer. Des fois, il peut le faire, mais ce n'est pas comme ça, en général. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ben oui, quand ça va mal, puis qu'on a cette tension, qu'est-ce que je fais ? On est partagé. Ayez conscience de votre misère. Oui, c'est vrai que là, c'est pas juste. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Autrement dit, confrontez la situation. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est plutôt magnifique. Il vous élèvera. La repentance, c'est avoir un cœur humble, comme on l'a vu. Ce cœur obéissant, c'est ce qui ressort de ce passage. Un cœur confessant et repentant. Un cœur qui résiste au diable. Et la promesse qui en découle, la première, c'est que le diable va fuir. Et comme on l'a lu, il nous relève. Les victoires par rapport à l'ennemi, il faut se remettre devant Dieu. La repentance, c'est exercer l'autorité de Jésus pour chasser l'ennemi. Pour exercer cette autorité, il nous faut déclarer la vérité. La vérité fait mal. Elle est dure à dire des fois. Et proclamer ces choses, c'est prendre le dessus. Une transaction spirituelle, reprendre ce que l'ennemi a volé. Il m'a volé mon héritage en Jésus avec cette situation que je vis. Tant que je veux rentrer dans cet héritage que Jésus m'offre. Chasser l'ennemi. Et on a cette autorité. Vous vous rappelez les derniers cours depuis le début de lequel on a parlé. On a cette autorité. Ça fait partie de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Luc 10, 19 nous rappelle ceci. « Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. » L'ennemi est obligé d'arrêter. Il n'a pas le choix. Est-ce que l'on a envie de vivre cette vérité? Alors vivons ces vérités. C'est une discipline. Parce que nous sommes disciples de Jésus. Et il faut apprendre à entrer dans cette discipline. On a les armes du chrétien, ben faut apprendre à l'utiliser, l'épée. Taillons, j'ai acheté une épée au magasin, et puis maintenant je vais aller dans un territoire de guerre et je vais tous les matins. Non, il faut qu'on apprenne. Et il faut qu'on le vive régulièrement pour entrer dedans, dans cette victoire que nous avons. Changer les choses commence par nos vies et ce qui nous entoure. Donc on doit déjà se positionner pour nous-mêmes. Se positionner avec cette autorité, ben justement pour nos frères, nos sœurs, nos époux, nos conjoints, nos enfants, nos amis. Et de commencer à déclarer les choses de Dieu. Quand on voit par exemple des situations difficiles ou autres, il peut y avoir cet accompagnement pour permettre de retrouver cette vie. Puisque cette autorité l'on a, elle n'est pas que pour nous, mais elle commence par nous. Donc là, ça devient enrichissant parce qu'on voit le royaume qui peut s'étendre. Jésus est notre modèle et il nous dit comment faire. Alors vivons ces moyens, vivons ces choses et apprenons à les utiliser. Pour ça, il faut être connecté avec Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend? Ces fameux 4 R qu'on a revus plusieurs fois dès le premier cours. Dans votre cahier, vous avez un modèle qui est donné de ces 4 R que l'on peut réutiliser. Il précise bien ce qu'ils sont. Ça précise à quel point c'est important et comment entrer dans ces temps de délivrance, de changement. Et ça, c'est une richesse. Gardez bien vos cahiers. Et quand tout d'un coup, il y a des situations qui vont pas replonger vous, typique, dans des cadres comme celui-là. Prenez le temps de travailler chez vous ces choses-là. En fait, vous allez voir, on dit 4, mais j'aime bien dire en fait qu'il y en a 8. Puis on va un petit peu regarder ça. Reconnaître et recevoir. 2 Chroniques 7, 14. Si, ça commence par un si, sinon ça ne se ferait pas s'il n'y avait pas quelque chose. Si mon peuple qui est appelé de mon nom, vous rappelez que nous sommes enfants de Dieu, donc nous avons son nom, s'humilie, prie, recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, je l'écouterai du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est le plan qui nous est offert. Le deuxième point, résister et renoncer. Matthieu 4, 10 nous dit, alors Jésus lui dit, va-t'en Satan. Ça rime. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. On l'a vu avant, on doit choisir sous quelle autorité nous nous mettons et dans quel héritage nous sommes. Remplacer et renouveler. Éphésiens 4, les 22 à 24 nous dit, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. On a du travail, mais dans ce travail, il y a le salaire qui va avec. Nous débarrasser de notre ancienne manière de vivre, changement. On doit revêtir l'homme nouveau. On doit être renouvelé par le changement qui oriente jusque dans nos pensées, prise de décision, pour mener à la vie juste et sainte. Et puis, on termine les 4 R avec recevoir et se réjouir. Tite 3, les versets 5 à 6 nous disent, non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous. En nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet Esprit l'a répondu avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Reçois, t'as rien mérité. Reçois le cadeau. Et réjouis-toi de cette autorité que tu as maintenant en Jésus. Et là, on arrive à un point qui est vraiment pas facile. Le pardon. Et j'aime bien comme c'est écrit, le pardon est essentiel. Et on va un petit peu voir ça. Et on va pas donner ce soir un enseignement sur le pardon, mais on va voir quelques points. Et quand on lit le Notre Père dans Matthieu 6, et les versets qui suivent cette prière, ils nous indiquent à quel point le pardon est essentiel. Résumé, sans pardon, pas de pardon. Ça paraît cru, hein? Sans pardon, il n'y a pas de pardon. Oh, oh. Quel gros défi! Quel gros défi! Jésus le souligne, nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Oh là là, on l'aime pas cette phrase. Et souvent dans nos vies, nos forteresses seront confrontées au fait de devoir, entre autres aussi, pardonner. Pour grandir. Et ce, de la même manière que l'on doit se repentir de notre péché. Comme on l'a vu jusqu'à maintenant, le pardon libère la puissance et l'amour de Dieu dans nos vies. Et plein de personnes qui ont vécu des pardons pour des choses extrêmement violentes peuvent tous le dire. Ils ont retrouvé la vie. Le pardon, ce n'est pas d'approuver ou justifier un acte injuste. Ah ouais, ben il l'a fait. Je passe à autre chose. Non. Il est beau mon accent. J'entends un raisonnement. Quelqu'un m'a dit avant que j'avais un bel accent du Jura bernois. Faut me pardonner. Le pardon, c'est pas approuver ou justifier quelque chose d'injuste, absolument pas. Le pardon n'est pas dire que l'offense, ou la blessure ou l'injustice est ok, je passe par-dessus, il y en a d'autres qui ont vécu pire. Non ! Garde-la ta souffrance au fond de tes entrailles, c'est bien. Ce qui a été injuste, reconnais-le comme injuste. Tu l'as trouvé dégueulasse à ton niveau, ben déclare-le comme dégueulasse. Tu peux dire tout ce que tu veux, ce que toi tu l'as vécu est violent, il est injuste. Ouais, mais l'autre, en fait, il a eu raison d'agir comme ça, vu ce que j'ai fait. Petite correction. Non, ce que tu veux guérir, reconnais le mal que tu as fait. Va à l'hôpital pour lui dire « Ouais, mais vous savez, mon fils, il a pas fait attention, quoi. Il a pris le couteau, il s'est retourné, et puis ça m'a blessé le bras. Ça va changer quelque chose ?» Rien du tout. T'es obligé de voir qu'il y a une trace de couteau, puis t'es obligé de soigner la blessure. Et cette blessure, elle a besoin que t'ailles à l'hôpital tellement elle est profonde. Tu ne peux pas justifier les blessures que t'as reçues ou dire comme si de rien n'était. Ou les étouffer, sinon ça va ressortir. Tu fais ce que tu veux. Le pardon, c'est pas de prétendre qu'on n'a pas été blessé ou brisé. Ah, il y a des jours, on a su, ça fait PAM ! Puis après, on va bien, on va de nouveau mieux, puis on fait comme si de rien n'était. Puis 20 ans après, ça ressort. Oh, mais c'était rien. Aujourd'hui, la personne, je la prends dans les bras, il n'y a aucun souci, tout va bien. Vraiment ? Afin de pardonner, en fait, il faut clairement identifier l'injustice, le manque d'amour vécu et la vraie portée de ce que c'est. À l'école, je sais que je l'avais déjà dit, mais je ne sais plus si c'était à l'église ou ici ou les deux, on m'a appelé la tête de grenouille pour me dire « Yann, tu es laid !» Et les mots « laid » est ressorti. Tu es le moche, tu es le bête, tu es le stupide. Les profs même se moquaient de moi en classe sur ma manière de m'habiller. C'était non-stop toute ma scolarité, c'était Yann le bobet, etc. Sur le moment, tu rigoles. À la maison, j'étais un chef de gang dans mon lit, et puis je les tabassais tous. Puis après, tu passes à autre chose, tu grandis, les choses vont bien, tu as des meilleures relations, le Dieu te permet de guérir des choses dans ta vie, les choses vont bien, puis tout d'un coup, tu réalises, et moi, je fonctionne encore comme ça. Je réalise que je suis nul, je suis pas beau. Ah, oh, mais ma manière de m'habiller, elle est terrible. C'est des pensées qui m'arrivent encore à l'heure actuelle. Ah non, mais de toute façon, moi, j'y arrive pas. Pas moi. Et ça devient un style de vie alors que j'ai plus ces gens autour. Et en fait, ça m'est arrivé de dire « Dieu, tu te plantes. Seigneur, pourquoi tu me donnes ça à moi? Je suis pas capable. » Ou tu vois, j'y arrive pas. Et résultat, on n'arrive pas à croire, peut-être, à des appels ou à des choses ou à des paroles de Dieu dans nos vies. Une dette, par exemple, ne peut être réglée qu'une fois qu'on a fait le total du montant et qu'on sait exactement ce qui doit être payé. Quand c'est bien calculé, quand on a le détail de la situation, c'est là que la dette elle est fixée, pas avant. Donc on doit reconnaître dans notre vie que des transgressions ont bien eu lieu. Et puis ensuite, quand on le fait, alors il faut que... on libère aussi, par le pardon, nos transgresseurs. Sans négliger tout ce que je viens de dire, mais quand on l'a fait, on peut passer à l'étape de plus, c'est d'accorder ce pardon et de libérer nos transgresseurs. Libérer ces coupables-là, les libérer de la nécessité de payer cette dette. Mais tu as déjà fait un gros pas si tu reconnais cette dette, qu'ils te doivent, parce que tu peux travailler sur ton cheminement. Et ensuite, les libérer de cette dette. J'ai réalisé un jour un truc. J'étais là, mais moi, je ne peux pas pardonner, c'est trop violent. Et une pensée m'est venue, elle a dit, t'es plus grand que Dieu, Yann. Parce que Jésus, à la croix, il a dit, pardonne-leur. Si je pardonne, ça résonnait autrement que... Ça résonnait pas dans le sens, si tu pardonnes pas, Dieu te pardonnera pas, ça me faisait prendre conscience. Si moi je veux pas pardonner, je vais à l'inverse du cœur de Dieu. Quelque part, je suis plus grand que Dieu, puisque je m'octroie le droit de pas pardonner. Et là, on réalise ce que Jésus a fait à la croix, et on remet cette transaction entre les mains de Dieu, comme Jésus lui-même s'est remis entre les mains du Père. Et qu'il nous a pardonné. La colère peut engendrer un péché. Si on pêche, on ouvre la porte à l'amertume, puis au non-pardon. C'est une autre possibilité, parce que le pardon est un remède contre l'amertume. Quand on ne pardonne pas, quand on souffre, ça travaille à l'intérieur, ça ronge, ça se coud. La colère monte. Dans la Bible, c'est écrit, quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Donc ce n'est pas la colère de dire « c'est pas juste » qui est faux, c'est « qu'est-ce que tu fais avec ?» Si on pêche, on ouvre la porte à l'ennemi, et puis donc au non-pardon. C'est automatique, ça vient tout seul. C'est un cycle qui nous atteint tous tellement facilement parce que c'est notre héritage depuis la chute. Ce cycle miracle de Dieu peut être arrêté n'importe quand. Il peut être arrêté maintenant. Après, il y a tout un cheminement, mais Dieu n'est pas limité. Ça fait 20 ans que tu te ronges. Dieu peut te libérer maintenant. Ça fait 5 minutes que tu te ronges. Dieu peut te libérer maintenant. Alors autant ne pas attendre. Facile à dire, certes. Parfois, juste poser les choses et y réfléchir peut être une bonne chose. Il y a une situation difficile, je pose les choses, je réfléchis peut-être pour ne pas agir correctement ou pour entendre autre chose. Ou peut-être poser sur la table. Mais des fois, quand on fait ça, on peut aussi virer et laisser l'amertume remonter. Et je crois qu'on doit apprendre à oser dire « stop ». Je refuse l'amertume dans le nom de Jésus maintenant. Je refuse la colère de me faire pécher. Puis peut-être que je vais devoir le répéter 40 fois aujourd'hui. Parfois, c'est si difficile. Hébreux 12, 15 nous dit « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu ». Que aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Il explique bien comment les choses se passent. C'est vrai, parfois c'est si difficile qu'il faudra revenir plusieurs fois, se repositionner dans notre pardon et oser chasser l'amertume. Et plus on se positionne, plus les choses se font. Mais ça peut prendre du temps. J'ai vécu un cas d'une extrême violence dans ma famille. Et c'était tellement violent que ça aurait pu aller au tribunal et à la prison de ce qui a été vécu dans ma famille. C'était tellement violent que j'ai voulu détruire la personne. J'avais ma batte de baseball qui était à côté de moi. Et si je voyais la personne à ce moment-là, je lui tapais dessus. Mais ma colère fait que cette personne n'y aurait pas passé. Tellement c'était violent. Mais dès le départ, malgré tout, malgré que j'avais cette colère, j'ai crié à Dieu, j'ai dit « Seigneur, aide-moi à pouvoir pardonner ». Sur le moment, je n'y arrivais pas. Je disais là, j'y arrive pas. Mais dès le départ, j'ai crié à Dieu « Sors-moi de là, je ne veux pas garder cette haine ». Ça m'a pris 8 ans. Ça m'a pris 8 ans jusqu'à ce que je puisse regarder en paix la personne. Je ne pouvais pas encore relationner avec. Mais j'avais plus la première pensée qui venait. 8 ans ! Puis il y a eu des périodes entières où je pouvais penser à cette personne, où tout se passait bien. Puis tout d'un coup, il y avait des soirs, ma batte de baseball, elle a tapé mon lit parce qu'il fallait que ça sorte. 8 ans dans lequel il a fallu se repositionner, mais ces 8 ans, chaque fois que c'est revenu, chaque fois j'ai crié à Dieu, chaque fois j'ai décidé, je ne veux pas en rester là, je ne veux pas que cette haine me submerge. Seigneur, aide-moi à pardonner, je veux pardonner. Après 8 ans, c'était différent, j'ai re-eu des relations avec la personne, j'ai re-eu des choses, et puis je vais pas entrer dans une théologie après et tout un enseignement. Je ne peux pas encore agir de manière correcte avec cette personne parce que la personne n'a pas changé. Mais par contre, je peux la regarder librement et même l'accueillir chez moi. Librement. Histoire de vous dire. Et quand il y a des soirs où tout d'un coup, t'es pas bien et qu'il y a les pensées qui reviennent, j'ai dit, j'ai pardonné. Et puisque ça revient, je dis, Seigneur, je le redépose encore, remplis-moi. Mais ma vie, elle a été changée. Hein. Ça fait maintenant les 8 ans qui se sont passés. Ça fait, je pense, 11 ans depuis. Mais beaucoup de choses sont tellement différentes aujourd'hui. Matthieu 18, 21-22 nous indique que nous devons pardonner pas seulement 7 fois. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Mais 70 fois 7 fois. Puis dans les chiffres, le 7, c'est une connotation d'aller jusqu'au bout. Une notion de pardon constant, l'identité du cœur du Père qui pardonne. Ouais, mais je dois repardonner, j'ai encore mal. Eh bien, repardonne. Mais si tu le fais sérieusement, le changement, tu vas le vivre. Dans le cahier, pages 47, 48 et 49, vous avez des tableaux. Ils sont simples, mais ils expliquent bien la situation. Je ne vais pas en parler ce soir. Je vous invite à revenir sur ce cours, regarder les détails des 4 R, les modèles dont je parlais, qui sont bien expliqués, et puis ça va un petit peu plus profond que ce que j'ai donné brièvement ce soir. Mais osez revenir dessus, parce que c'est vraiment très riche. Je dis juste qu'il faut sortir du cycle destructeur de l'offense. Le pardon déclenche des bénédictions divines. Il brise des influences spirituelles qui détruisent. Il nous libère et nous permet d'expérimenter, de goûter la présence et la puissance de Dieu. Il restaure nos vies et nous renouvelle. Accorder le pardon commence par la volonté, par la décision, par la transaction d'aller jusqu'au bout. Et ça transformera notre pensée. Et très souvent, les émotions suivent plus tard, comme l'exemple que je viens de vous donner. Page 49, regardez le point E. En jaune, vous avez une prière qui peut vous accompagner pendant ces moments. Je ne vais pas la lire maintenant, mais là, vous avez aussi un exemple qui peut vous aider. Il faut renoncer au non-pardon absolument, ça doit être une clé de nos vies. Donc c'est une aide précieuse, copiez-la dans vos bibles, imprimez-la, entourez-la, colorez-la, si vous voulez, ayez-la sous la main tout de suite, comme ça, tout d'un coup, c'est « Comment je fais? J'y arrive plus !» Ah oui. Rapidement encore, il est important dans la question du pardon de voir si nous avons commis certaines choses en conséquence. Et donc ces choses, aussi légitimes soient-elles vu les situations, maintenant qu'on sait qu'elles sont fausses, ben on doit demander pardon pour nos actes et nos pensées. Ça fait bizarre aussi d'entendre ça. Et parfois, ça va même jusqu'à la restitution. Dans nos erreurs, nous avons peut-être blessé. Dans notre souffrance, pas dans nos erreurs, dans notre souffrance, nous avons peut-être nous-mêmes blessé. Dans notre souffrance, nous avons mal agi. Dans notre souffrance, nous avons peut-être aussi fait du tort. La question de la restitution, la question du pardon. Et souvent, ça conduit à la culpabilité, à la honte si on a fait quelque chose d'injuste. Résultat, on est détruit dans les deux sens. On nous a fait du tort, on est détruit. On a fait du tort en réponse et ça nous mine. C'est beau, hein ? L'ennemi va l'utiliser, vous inquiétez pas, lui, il loupe pas sa place. Là aussi, nous devons reconnaître notre attitude, notre péché et demander pardon. Je dis bien, et là je le souligne aussi, tu as une mauvaise pensée contre quelqu'un à ce moment-là, va peut-être pas lui dire « j'ai une mauvaise pensée contre toi ». D'accord ? Mais dans le cadre du vécu, d'une parole proclamée, de certaines choses, ose aller demander pardon. Même si ce que tu as fait te semblait juste. C'est pas facile. Moi, j'ai vécu un exemple. Quand ma fille est née, elle avait 2 ans, elle en a 17 aujourd'hui. Quand elle avait 2 ans, elle se promenait avec moi, puis on avait le pouce-pouce pour mon fils. Lui, il était dans le pouce-pouce, tout nouveau-né. Presque. Il y a déjà quelques mois. On traverse la route, il y avait un rond-point, et une voiture a accéléré à la sortie du rond-point. Et ce n'est pas une plaisanterie, témoin à l'appui, je pense qu'il y avait une poignée de main entre le pouce-pouce et l'avant du véhicule quand il s'est arrêté. Malheureusement ou heureusement, enfin, vous comprendrez pourquoi je le dis comme ça, les roues de la voiture n'étaient pas sur le passage piéton, mais l'avant de la voiture était sur le passage piéton. Et nous étions déjà engagés bien avant qu'ils sortent du rond-point. Je me suis énervé. On a paniqué comme pas deux. Je me suis tellement énervé que j'ai gueulé sur le chauffeur. Je suis resté poli. J'étais auprès de lui. J'ai vu le pneu de sa voiture et j'ai shooté dans la gomme du pneu de sa voiture. J'ai eu envie de shooter dans la carrosserie, je me suis retenu et j'ai dit « il faut que ça sorte » et j'ai visé le pneu. Et j'étais tellement en colère que j'avais envie de lui mettre une claque à lui. J'ai tapé son rétroviseur. Bon, vérité des vérités, j'ai fait comme ça. Pour un rétroviseur, c'est pas grand-chose. Mais je l'ai fait. J'ai porté plainte au tribunal. Une année après, on s'est retrouvé au tribunal. Et on m'a demandé « pourquoi vous avez porté plainte ?» Et j'ai dit à la personne, enfin à l'avocat, au juge, enfin je ne sais plus, je leur ai dit « parce que la personne ne s'est pas excusée, qu'il n'a pas reconnu son tort. » Ah pourquoi ? S'il l'avait fait, on posait, on passait plus loin. Mais monsieur Roulet, vous avez tapé la voiture. C'est ressorti. C'est moi qui vais au tribunal pour demander justice. Et lui, il s'est plaint en contrepartie que j'avais tapé la voiture. Imaginez si j'avais mis le coup de poing sur la personne, ou si j'avais utilisé mon poing sur le rétro, ou si j'avais shooté la carrosserie. Quelle grâce que probablement Dieu a dû m'aider, et puis que j'ai cette pensée « fais gaffe où tu shootes Yann ». Parce que sinon, c'était moi qui étais accusé. Et en fait, c'est comme ça que fonctionne la vie. Donc en fonction des situations, légitimes ou non, si nous avons répondu par un tort, nous devons demander pardon. Si la voiture, je l'avais cassée, je me devais de lui demander pardon. Si j'avais été grossier avec, je me devais de lui demander pardon. Zachée, vous connaissez Zachée ? Jésus mange chez lui. Et Zachée annonce quelque chose de fort, c'est qu'il veut rendre. Ça fait partie. Si tu as volé, rends. Dans la mesure où les choses sont possibles, si on peut restituer, faisons-le. Moi, il y a des choses dans ma jeunesse que j'ai faites, et je n'ai pas pu les restituer, mais je les ai confessées, et on m'a libéré. D'autres, j'ai été jusqu'à les rendre. Certaines, je m'en souviens probablement pas. Et si un jour Dieu veut faire quelque chose, ben, il me le rappellera. Mais ça va aussi dans le cadre de la restitution, de la reconnaissance de ces choses-là. Et Zachée, lui, il obéissait à la loi, qui demandait de rendre dans le vol jusqu'à une certaine fois. Le problème, c'est que Zachée, il allait encore plus loin. Il a tellement été touché qu'il a voulu bénir ceux à qui il avait fait du tort. Quel bel exemple! À la page 50, j'aimerais vous inviter à entourer de la colonne de droite les 5 conseils pratiques qui sont définis. Vous avez vu le point 3, conseils pratiques. J'aimerais juste vous inviter maintenant à les regarder, rapidement. Puis j'aimerais vous encourager à les entourer. Des fois, on ne sait plus comment faire, on a oublié. Alors, prenez note. Surtout si vous vous sentez concerné ce soir. Ou maintenant, par toutes ces questions que l'on a partagées. On va vivre la pause dans quelques instants. Mais prenez le temps aussi, j'ai envie de dire, pendant la pause, de vous agender un moment dans les prochains temps qui viennent pour revenir voir cette prière, pour revenir voir ces tableaux, pour revenir voir ces 5 points, pour que vous puissiez être dans un moment calme entre Dieu et vous, ou à la limite, si vous êtes dans un groupe de prière, ou à la limite, dans un autre cadre. Prenez le temps, agendez-le pendant la pause, histoire de ne pas passer à côté. Avant de donner la conclusion, je vous laisse encore quelques instants pour regarder ces points, entourez-les si vraiment ils vous parlent, ou au moins ceux qui vous parlent. Si on veut, pour avoir un style de vie basé sur l'humilité et la repentance, en vivant ces 4 R, en identifiant les racines de forteresse de notre vie, en prenant position avec l'autorité qui nous est donnée, en nous laissant transformer dans la repentance, en baignant dans la relation constante avec Jésus dans la prière, ces choses vont se passer. C'est automatique. Recherchons à pardonner et à demander pardon. Recherchons à restituer si le besoin est. Recherchons à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors, nous serons un arbre. Comme le psaume 1 nous le dit, vous le voyez à la page 51, nous serons comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et si on vit ces choses, on va porter du fruit. Nos vies vont s'enrichir. Nos vies vont s'épanouir. La bénédiction va en couler. Une vie meilleure est une bénédiction. Amen. Voilà, de manière pratique un peu, ceux qui ont... Il ne fait plus clair. J'allais amener la dernière image. Si ? Ben, il y en a encore une douzaine d'images pour la prochaine leçon, dont l'actuelle que vous attendez tous. Regardez encore si certains veulent passer, enfin, regardez pour les fois prochaines, il y a encore une place ce soir, si jamais, pour la prière dans la prochaine leçon. Voilà.